Avec Hélène Denis. Bonjour, c'est le 24 septembre 2025. Aujourd'hui, on est mercredi. J'espère que vous êtes en forme. Mathieu, tout est beau?
Oui, tout est beau.
Même si c'est écrit sur votre T-shirt, difficile.
C'est difficile.
Difficile. Oui, il n'y en aura pas de facile. Malgré que dans certaines sphères de la vie, ça va bien. Hein? Je pense au hockey. C'est une expression consacrée. Hein? Il n'y en aura pas de facile dans le domaine du sport. Mais de ce temps-ci, les Canadiens gagnent. On espère que ça continue. Et là-dessus, bien, je salue Serge Bradet qui est en studio.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Très bien, très bien.
Vous allez parler? Oui, merci. L'héritage des Ursulines.
Oui, oui. Les 400 ans, 400 ans d'éducation donnée par les Ursulines à Québec et ailleurs.
C'est merveilleux. Ouais. Et au bout du fil, il y a Isabelle Falardeau.
Bonjour.
Des fromages latino-américains.
Oui. Ah, je pense que, en tout cas, si vous mangez du fromage, vous allez avoir le goût d'en manger après avoir entendu ma chronique, je pense.
Ah oui, moi, je suis une folle de fromage. Latino-américain, je suis bien curieuse.
Mais oui, c'est un couple d'origine latino-américaine qui recherchait un goût de la maison. Et qui ont créé des fromages et maintenant, ils ont une fromagerie ici au Québec.
Merci d'être là. La chronique cinéma avec Louise-Véronique Sicotte, un petit peu plus tard au cours de l'émission, vous sera présentée. Louise-Véronique a vu 3 films. Négligence de Leonardo Fuica, La mort n'existe pas, qui est un film d'animation de Félix Dufour-Lapeyrière et Ils sont sacrés de Kim Obom-Samwin. On a bien hâte d'entendre ce qu'elle en a pensé. Et aussi, il y aura la chronique de l'ami Julien Caillouette pour avoir les nouvelles francophones les plus fraîches en ville. Et on part avec la nouveauté de Charlotte Cardin. Tant pis pour elle.
Tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux. Et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes. Fini ce bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je vide de tes veines, jusqu'à ce que rien te rappelle. Regarde mes lèvres. C'est notre lune de miel. Et tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux. Et toi le dieu de mon ciel.
C'est le titre de cette chanson, tant pis pour elle, Charlotte Cardin.
À la une du Devoir d'aujourd'hui, Donald Trump fait la leçon au monde. Le président américain Donald Trump a livré mardi un assaut frontal contre les Nations unies et a prévenu l'Europe qu'elle irait droit en enfer si elle n'embrassait pas sa vision anti-immigration et climato-sceptique, le tout lors d'un discours devant l'Assemblée générale. qui aura aussi écorché l'immigration, les énergies renouvelables, la Russie et la reconnaissance d'un État palestinien. L'occasion saisie par Hugo Décrypte en s'implantant au Québec, le média français vient combler un vide auprès des 15-34 ans. Ce n'est pas si courant de pouvoir contempler de visu une profonde mutation sociale en marche, écrit Stéphane Baillargeon. C'est bien l'impression d'assister à un pareil basculement qui émanait lundi soir d'un amphithéâtre de l'UQAM rempli d'étudiants et de professeurs en journalisme venus entendre le français Hugo Travers, vingtenaire qui a fondé la chaîne Hugo Décrypte il y a une décennie. Ils étaient une bonne centaine, un soir de pluie et de grève de transport en commun. C'est dire la force attractive de cet aimant. L'entreprise numérique franco-française revendique maintenant plus de 20 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses plateformes, lesquelles proposent des entrevues, des décryptages, des reportages, des infolettres sur l'actualité, des vidéos de courtes à très longues. Le nouveau média, par opposition aux très anciens comme Le Devoir, emploie plus de 40 personnes maintenant, dont un tiers de journalistes accrédités. Le Québec américain de 1775, la séduction ratée de Franklin. En septembre 1775, il y a 250 ans, les soldats de l'armée continentale américaine franchissaient les frontières du Québec pour libérer ses habitants de la tyrannie britannique. Le Devoir revient sur les facettes méconnues de cette invasion qui est passée à quelques enjambées de faire du Canada la 14e étoile du drapeau américain. Il me semble qu'on a déjà entendu ça quelque part. C'est une série de textes de Dave Noël. On est rendu au 4e aujourd'hui. À la une de la presse plus, autre histoire pas trop catholique, si vous me permettez l'expression. De l'arnaque en veux-tu, en v'là. Brèche bancaire, accès illégal aux données du premier ministre. Un employé de la Banque royale du Canada travaillant pour le crime organisé a eu un accès au profil bancaire du premier ministre du Canada, Mark Carney, et à celui de son prédécesseur, Justin Trudeau. C'est Vincent Larouche et Daniel Renault de l'équipe d'enquête de la presse qui racontent l'histoire. Un employé de la Banque royale du Canada qui travaillait secrètement pour le crime organisé a été épinglé après avoir accédé au profil bancaire confidentiel du premier ministre Mark Carney et de l'ancien premier ministre Justin Trudeau, ce qui a mené la gendarmerie royale à déclencher une enquête en matière de sécurité nationale. L'employé qui travaillait à la succursale de la RBC située sur Bank, près du Parlement à Ottawa, œuvre pour l'institution financière depuis 2022. Le 27 juin dernier, lorsque les services de sécurité interne de la banque ont découvert qu'il accédait sans permission à des dossiers bancaires de clients et qu'il facilitait des crimes en octroyant des marges de crédit sur la base d'identités factices utilisées par des fraudeurs, il s'est mis à table et a tout avoué à ses employeurs. Aussi à la une de la presse, et on en parle partout, le retour de Jimmy Kimmel, la revanche du comique, c'est la chronique d'Yves Boisvert, Jimmy Kimmel qui était de retour hier, ému et heureux. Marie-Ève Fournier, le coup de gueule d'Andrew Lofty, groupe Dynamite, envisage de déménager aux États-Unis. C'est une rencontre que Marie-Ève Fournier a fait avec le grand patron des boutiques Garage et Dynamite du Royal Mount et du 1030, Andrew Lofty, qui est écœuré de voir comment le Québec gère certains dossiers. Notre gouvernement à gauche, qui manque de courage, nuit à l'économie, aux entreprises, aux citoyens, croit-il. À elle seule, la question des permis de travail de ses employés recrutés à l'étranger lui fait sérieusement envisager un déménagement aux États-Unis. Et puis, je termine avec la une du Journal de Montréal. Nouveau livre choc de notre bureau d'enquête, piégé par ce faux prince charmant. Pas charmant du tout. Menteur compulsif, fraudeur aguerri, l'arnaqueur des sites de rencontres, Serge Rivard, aurait dupé et ruiné une vingtaine de ses amoureuses avec ses belles promesses, révèle un livre choc de notre bureau d'enquête. Il a brisé tellement de vies, raconte avec émotion Liane, une mère de 3 enfants qui a perdu des milliers de dollars après être tombée sous le charme de Serge Rivard. C'était en 2018. Elle est l'une des 19 femmes dont l'histoire est exposée dans le tout nouvel ouvrage intitulé « Le prince charmant n'existe pas », publié aujourd'hui aux éditions du Journal. We'll be right back.
Daniel Seff, comme un train.
Merci Mathieu. La ville de Val-des-Sources en Estrie cache une fromagerie unique, Isabelle.
Oui, tout à fait. C'est un article que j'ai trouvé dans la presse. Ça datait du 9 août. Je l'avais dans ma manche parce que j'avais envie de parler de fromage éventuellement. Des fromages latino-américains au goût d'ici. C'est donc le titre de cet article de Florence Doncause. Et puis, si vous vous posez la question, c'est où ça, Val-des-Sources? C'est ce qu'on appelait avant, voyons, Asbestos.
Oui, 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 ça a changé.
Le nouveau nom de la ville.
De nom.
C'est quand même plus...
plus joli.
Oui. Alors, c'est ça, la ville de Val-des-Sources en Estrie. C'est là où se sont installés, pas tout de suite, là, mais enfin, je pense que c'est en 2015, c'est la fromagerie Les Fromages Latino. Donc, c'est ce couple d'origine d'Amérique latine, Isabel Correa et Eduardo Ibanez. On commence par l'article en disant que un de leurs fromages a été finaliste pour les prix Caseus. Au moment où l'article a été écrit, les gagnants n'avaient pas été nommés. Ils ont été nommés en septembre et ils n'ont pas gagné, mais quand même, le fait d'être finaliste pour les prix Caseus, qui sont les prix qui récompensent les meilleurs fromages du Québec chaque année, c'est vraiment un accomplissement en soi. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont pensé à tous les Latinos. Quand ils arrivent ici, ils veulent préparer la cuisine de leur pays, on veut leur offrir leur fromage. Et c'est comme ça que la fromagerie s'est retrouvée à élaborer 13 fromages et 2 types de crèmes. C'est des fromages qui sont importants pour ces communautés, qui sont des communautés qui sont toujours en croissance au Canada. Parce qu'il y a plusieurs plats traditionnels qui en requièrent. Et moi, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec tous les Québécois qui se retrouvent à l'étranger puis qui veulent se faire une poutine. Et ça nous prend... Non, mais c'est vrai, ça nous prend le fromage couicoui. Et, ben, c'est ça.
Le fromage couicoui, vous dites couicoui? Oui, le fromage en grain.
Oui, c'est ça. Et c'est ça, quand on réussit à trouver quelque chose qui s'en approche un petit peu, on se réjouit. Alors, on peut vraiment comprendre que les gens qui sont habitués de préparer des plats traditionnels, qui demandent un type particulier de fromage, à quel point ils sont heureux de pouvoir les trouver. Et en fait, ça a commencé vraiment parce que la famille elle-même ne trouvait pas de la cuajada, qui est un fromage de Colombie et qui est essentiel dans la fabrication des buñuelos, les petits beignets ronds servis à Noël. Parce que c'est un fromage qui a la particularité de pouvoir être chauffé un peu comme le fromage alumi ou le fromage en grain, d'ailleurs. Mm-hmm.
Comme on fait aussi avec le brie aussi.
C'est ça, mais il peut se servir pour fourrer des desserts. Au début, c'est le voisin d'un ami qui leur donnait de 5 à 10 litres de lait pour faire le fromage. Et rapidement, les amis, la famille se sont passés le mot. Tout le monde voulait en acheter. Et là, c'est là qu'ils ont vu vraiment le potentiel de ce produit au-delà de leur consommation personnelle parce qu'aucune fromagerie les fabriquait. Et donc, ils se sont inscrits à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Et puis, ils ont commencé à commercialiser leur fromage en 2005. Au début, ils avaient construit une installation à Saint-Aimé et finalement, se sont implantés à Val-des-Sources en 2015. Et avec le temps, au début, ils ont préparé des fromages qu'eux-mêmes connaissaient, mais ils ont diversifié les fromages fabriqués artisanalement. La marque de fromage, si vous la cherchez, c'est Rumba, comme la danse. Et ils ont donc contacté des Vénézuéliens, des Péruviens pour avoir leurs recettes. Et ils se sont même rendus au Mexique pour parfaire leurs connaissances. Et on dit qu'ils font le bonheur de nombreux Latinos qui sont vraiment contents d'avoir leurs produits. Et là, on peut se poser la question, est-ce que ces fromages peuvent se comparer à ce qu'on connaît au Québec? Madame Ibanez Correa dit que ce sont tous des fromages frais, donc ils ne font pas de fromages affinés. Et on peut voir une ressemblance avec le fameux fromage en grain, mais le goût est différent. Elle dit qu'ils goûtent le lait. Ce sont vraiment des fromages doux. Et elle avoue que pour les non-initiés, ça peut être difficile de départager les fromages. Ce qui les différencie, c'est surtout leur texture, plutôt granuleuse, plutôt ferme, et le degré de sel qui est contenu.
Texture granuleuse?
Oui.
Ah bon?
Faudrait que vous alliez voir, sans les images, c'est un peu difficile, mais je suis allée, par exemple, voir le Doha Queso Fresco, Ça semble être un mélange, un hybride entre du feta et du fromage en grains.
Ah, intéressant!
En tout cas, il y a comme, parce qu'on peut l'émietter, mais en même temps, c'est quand même ferme quand on l'ouvre.
Oui. Donc, est-ce que ça fait quick?
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de leurs fromages qui font quick, mais c'est le goût qui est vraiment différent par rapport au fromage en grains. Donc, il pourrait probablement être utilisé, en fait, pas probablement, il est utilisé pour faire de la poutine, puisque non seulement ils ont une fromagerie où vous pouvez aller déguster leur fromage, mais ils ont aussi un restaurant sur place. Et là, si vous avez envie de manger des plats authentiquement latinos, comme les quesadillas, les nachos, alambre, chuleta, tacos al pastor, flautas...
On s'en va à Val des Sources.
Voilà, et là, vous avez vraiment le plat authentique avec le fromage authentique. Et ils ont un petit plat fusion qu'on pourrait appeler la poutine mexicaine, où là, vous avez la poutine traditionnelle, frites, fromage et sauce. Mais le fromage, c'est bien sûr un de leurs fromages. Et vous avez un ajout de carne al pastor, qui est un peu comme un porc effiloché. Et avec le pico de gallo, qui est la petite salsa typique là, de légumes coupés, tomates coupées, et ciboulette. Donc, je pense que ça doit être très bon, ma foi.
On vous croit.
Alors, c'est ça. En fait, ça, c'était pour le restaurant. Si jamais vous voulez aussi leur procurer leur fromage...
Je vous arrête, Isabelle. Est-ce qu'on a donné le nom du restaurant?
Oui, le restaurant, je pense que ça s'appelle tout simplement Rumba Resto.
Comme le nom du fromage.
Comme le nom du fromage, voilà.
Parfait.
Et donc, mais c'est ça pour les fromages en tant que tels. On peut les trouver dans plusieurs épiceries Maxi, apparemment. À Montréal, dans les épiceries latino-américaines Sabor Latino et Marché Andes. Vous pouvez les acheter sur place à Val des Sources. Et moi, sur le site Fromage d'ici, j'ai vu aussi mentionner que les marchés Adonis
vendaient
plusieurs de leurs
fromages. Ah oui.
Donc, ça, c'est aussi une option parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, c'est sûr que c'est plus centré autour de Montréal et l'Estrie, mais je pense que s'ils sont dans ça à travers le Canada, ça veut dire qu'on peut sûrement trouver moyen d'en trouver. Mais c'est ça, si vous voulez aller voir sur leur site, c'est très facile à trouver. Là, c'est simplement fromage Rumba, fromage au pluriel, Rumba, rumba.com. Et là, vous allez avoir toute l'information sur les différents fromages. Ça donne vraiment le goût là, d'essayer. Moi, j'ai une petite épicerie mexicaine tout près de chez moi. C'est pas mentionné sur le site, mais j'ai envie d'aller voir parce que je serais pas étonnée qu'ils en tiennent ici.
Et en tout cas, si vous goûtez, vous nous en reparlerez. Et moi, j'ai envie aussi d'aller au restaurant.
Tout à fait. Vraiment, moi aussi.
On ira ensemble. Merci, Isabelle.
Perfect day, ce serait de nous dire en anglais tout ce que l'on désire. You tell me all what you want, jamais je n'hésiterai. But question another day. Perfect day, perfect day.
Sandrine Kiberlin, Perfect Day.
Et on y va avec vous, Serge Bradet. 400 ans d'histoire de l'éducation à Québec, le précieux héritage des Ursulines, un texte d'Alex Tremblay-Lamarche.
Oui, dans la Journal de Québec. Le 14...
Dans la Journal, toi.
Dans la Journal de Québec. Le 14 septembre dernier. Alors, c'est... Pardon. Le septembre est synonyme de rentrée scolaire. Et au moment où les élèves de partout au Québec reprennent le chemin de l'école, le pôle culturel du monastère des Ursulines vous propose d'en apprendre davantage sur l'héritage éducatif des Ursulines. Depuis avril, la nouvelle exposition « Grandir chez les Ursulines » invite le public à découvrir, au moyen d'objets, de récits et d'archives, près de 400 ans d'histoire de l'enseignement à Québec et l'empreinte durable des Ursulines sur la société québécoise. Et c'est une exposition, je suis allé voir hier, vérifier, une exposition qui est permanente. Alors, elle va durer pas quelques mois, mais probablement quelques années, quand c'est permanent.
Mais souvent, quand c'est permanent, on se dit, on a le temps, puis on n'y va jamais.
Oui. C'est donc le moment idéal pour offrir un rapide tour d'horizon de la contribution majeure des Ursulines à l'éducation et de manière plus générale au Québec. La suggestion d'article m'a été faite par deux de mes amis, Jocelyne Beaune et Daniel Ouellette, que je salue.
Ils sont à l'écoute en ce moment?
Oui, je pense bien, et qui m'envoient souvent des articles. Ça serait intéressant pour ta chronique, intéressant pour ta chronique.
Ah, ils sont gentils.
Oui, oui.
Vous avez des bons amis.
Oui, oui. Puis j'ai une chronique même que j'ai refilée à Isabelle pour un autre tantôt, si ça l'intéresse.
Vous aussi, vous êtes très gentils.
Oui.
On s'entraide.
Oui, ben oui. Au XVIIe siècle, la France se relève de guerres de religion qui ont amené chez les catholiques une ferveur nouvelle. Devant la montée du protestantisme, plusieurs dévots cherchent à convertir les âmes à la vraie foi. Québec n'a beau n'en être encore qu'à ses débuts, elle attire déjà plusieurs missionnaires qui souhaitent venir à la rencontre des Premières Nations pour leur apporter la foi et leur enseigner. C'est dans ce contexte que trois religieuses entreprennent un projet audacieux. Fonder la première école pour jeunes filles de la Nouvelle-France. Il s'agit de Marie de l'Incarnation, de son vrai nom Marie Guillard, Marie de Saint-Joseph, Marie de Savonnière de Latroche, et Cécile de Sainte-Croix, Cécile Richer. Elles sont accompagnées par leur bienfaitrice, Marie-Madeleine de Chauvigny, mieux connue sous le nom de Madame de la Pelletrie, et de la servante de cette dernière, Charlotte Barry. Ensemble, elles traversent l'Atlantique et débarquent à Québec le 1er août 1639, où elles ouvriront une école et fonderont un monastère.
The Girl Power.
Oui. Rapidement, on confie aux Ursulines des jeunes filles autochtones et françaises. Fait intéressant, comme ce ne sont pas tous les parents qui disposent d'argent sonnant et trébuchant pour payer les frais de scolarité de leurs filles, plusieurs pains en céréales, en bois de chauffage, en viande, en barils d'anguilles salées, en beurre et même en terre. Et ça, c'est quelque chose qui est resté assez longtemps. J'ai un ami, moi, qui a fait, il étudiait à Saint-Hyacinthe,
oui.
Dans le collège, et il était pensionnaire, et les parents... étaient cultivateurs. Ils amenaient comme ça des choses pour payer l'éducation de leurs enfants.
Oui, oui, des bidons de lait, etc.
Ouais, Après avoir enseigné pendant quelques années dans une maison de la Basse-Ville, les Ursulines s'installent en Haute-Ville avec leurs élèves en 1642. Et les élèves des Premières Nations et celles d'origine française ont essentiellement le même programme. Catéchisme et histoire religieuse, lecture, écriture, calcul et, évidemment, travaux à l'aiguille. Indispensable. Mmh. Les religieuses enseignent ainsi à différentes communautés, mais vers 1725, les Ursulines ferment leur classe autochtone. Cela s'explique entre autres parce que la ville de Québec n'est plus le carrefour qu'elle était jadis pour les Premières Nations. Ça s'est déplacé vers Montréal. Les Ursulines continueront toutefois à accueillir des élèves des Premières Nations tout au long de leur histoire par la suite. Après avoir accueilli des élèves autochtones françaises et canadiennes françaises, les Ursulines ouvrent leurs portes aux jeunes britanniques au lendemain de la conquête, anglaises, écossaises et irlandaises, qui vont grossir les rangs de leurs élèves. Et évidemment, au fur et à mesure que la population du Québec se diversifie, ben il y a d'autres communautés qui sont arrivées.
Merci Serge. On poursuit cette histoire de l'éducation au Québec des Ursulines avec vous au retour de la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et on retourne au 19e siècle. Serge, vous nous parlez du précieux héritage des Ursulines. Il y a des Américaines qui vont visiter les Ursulines.
Exactement, oui, oui, des jeunes Américaines. Certaines, telles les sœurs Sarah Anne et Russia Holmes, demeureront au Québec où elles se marieront avec un Canadien français après leurs études. D'autres prendront le voile et demeureront au monastère. C'est notamment le cas de leur sœur, Joséphine Holmes, qui devient mère Sainte-Croix et joue un rôle important dans le développement de l'enseignement des sciences chez les Ursulines. De nos jours, l'école des Ursulines continue à accueillir des enfants de partout dans le monde. Elle compte des jeunes de plus d'une quarantaine de nationalités différentes en ses rangs. Quand même, faut le souligner.
Considérable, oui. Ouais.
Les Ursulines considèrent les arts comme un outil essentiel de formation. Calligraphie, broderie et musique s'intègrent à l'enseignement afin de développer discipline, goût du beau et sens pratique. Dès le 17e siècle, Marie de l'Incarnation et ses consœurs enseignent les travaux d'aiguille aux élèves du monastère. Dans les années 1820, la peinture s'ajoute au cursus et plusieurs autres disciplines artistiques s'ajoutent au programme dans les années qui suivent. Pensons entre autres à l'orgue, la harpe, l'accordéon, et à de multiples autres instruments de musique, ainsi qu'à la confection de fleurs et de fruits artificiels. Certaines religieuses se distingueront d'ailleurs en enseignant les arts pendant de nombreuses années. C'est notamment le cas de Mère Saint-François Borgia, Émilie Miville-Deschênes, qui enseigna longtemps le dessin, et de Sœur Marie du Crucifix, Marie-Claire Châle, qui donna des cours de piano pendant plus de 50 ans. Au milieu du 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle peut-être une seconde fondation. Les Ursulines revoient considérablement le cursus scolaire offert entre les murs de leur école. Sous l'imposition de Mère Saint-Henri et de l'abbé Thomas Maguire, alors aumônier de la communauté religieuse...
Maguire,
oui, alors aumônier de la communauté religieuse, je l'ai francisé, on rehausse considérablement le programme. Alors que l'enseignement se centrait sur l'instruction religieuse, la lecture, l'arithmétique et les travaux à l'aiguille, au 16e et 18e siècle, et 17e, voyons, au 17e et 18e siècle, on se met à enseigner aussi l'anglais, la mythologie, l'astronomie, la géographie, le dessin, la peinture, la chimie, la physique et bien plus encore. Les sources vont même jusqu'à parler d'une seconde fondation, justement, pour les Ursulines. Et parmi les objectifs de cet élargissement du cursus scolaire, citons la volonté de concurrencer les écoles anglophones qui se font de plus en plus importantes afin d'attirer une clientèle bilingue et multiconfessionnelle au monastère des Ursulines. Elles peuvent pour se faire compter sur quelques religieuses américaines, telles que Mère Saint-Augustin, Elizabeth Dougherty, et Mère Marie de l'Incarnation, Cecilia O'Conway, qui sont formées en géographie, en histoire et en sciences et en langues. Et évidemment, les Ursulines ont innové en faisant la promotion des sorties au grand air.
Ah oui?
Oui, alors restez pas toujours dans les classes à l'intérieur. Il faut sortir, il faut s'aérer, il faut faire de l'exercice, même pendant l'hiver. Et durant l'été, une partie des jardins est transformée pour que les élèves puissent jouer à l'extérieur. Une partie des cours d'histoire naturelle, botanique, zoologie, minéralogie, géologie se fait à l'extérieur où l'on observe la nature, récolte des spécimens pour faire des herbiers et identifie des espèces végétales. Au 19e siècle, l'intérêt pour les sciences croît considérablement. Et plusieurs sociétés savantes voient le jour et les familles de l'élite souhaitent offrir à leurs filles une éducation plus diversifiée. Désireuses de répondre à cette demande, les Ursulines enrichissent leur programme en y intégrant plusieurs disciplines scientifiques, telles que la physique, la chimie et l'astronomie. Et elles font venir d'Europe et des États-Unis du matériel pédagogique de grande qualité et adoptent des méthodes pédagogiques favorisant le raisonnement et l'analyse, ce qui était assez avant-gardiste, hein, pour l'époque.
Complètement.
Oui. Une œuvre d'enseignement qui dépasse les frontières de Québec. L'œuvre d'éducation des Ursulines ne se limite pas à Québec. Dès 1697, elles fondent un second monastère à Trois-Rivières avec l'objectif d'éduquer les jeunes filles et de soigner les malades, puisque la ville ne dispose pas de moyens suffisants pour accueillir deux communautés de religieuses différentes. En 1882, elles ouvrent à Roberval la première école ménagère du pays, afin de fournir une éducation aux filles de colons qui s'installent dans la région. Et deux ans plus tard, en 1884, elles s'installent à Stanstead, dans le diocèse de Sherbrooke, où elles ont la mission de fonder une école catholique au cœur d'un milieu anglophone et protestant. Alors, on essayait de s'intégrer, de s'insérer dans le...
Dans le milieu anglophone?
Oui. En 1924, les Ursulines répondent à l'appel de Mgr François-Xavier Ross et ouvrent l'école normale de Gaspé. Et dans les décennies suivantes, elle dirige aussi un pensionnat, un institut familial et plusieurs écoles paroissiales. Au 19e siècle, la population du Québec augmente rapidement Et à la demande, pour des instituteurs et institutrices qualifiées ne cesse de croître. Afin de s'assurer que ces derniers disposent d'une formation qualifiée, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada crée les écoles normales en 1856. Trois établissements voient le jour. L'École normale de Jacques Cartier à Montréal.
C'est drôle comme qualificatif, hein, une école normale.
Oui, oui. Ça n'existe plus, une école normale, ça, je pense. Ça n'existe plus, une école normale. Je pense pas.
Les écoles anormales?
Non, ben oui. L'École normale Laval à Québec et l'École normale de l'Université McGill, qui a pour mission de desservir la communauté anglophone. C'est dans ce contexte que les Ursulines se voient confier la section féminine de l'École normale à Laval. Et au début du 20e siècle, plusieurs fois s'élèvent pour que les filles puissent aussi bénéficier du cours classique, alors réservé aux garçons. Et en 1908, un premier collège classique pour filles, le collège Marguerite Bourgeois, ouvre ses portes à Montréal. Et 15 ans plus tard, le collège... Bravo, hein?
Yeah.
15 ans plus tard, le collège Jésus-Marie à Sillery offre leur premier cours classique pour filles dans la région de Québec. Bien vite, plusieurs autres collèges classiques pour filles sont fondés. Et entre 1932 et 1938, 8 voient le jour au Québec. Bon progrès. C'est dans ce contexte que les Ursulines offrent le cours classique et le cours commercial à compter de 1936. Et aujourd'hui, l'héritage éducatif des Ursulines se poursuit grâce à l'École des Ursulines de Québec et le pôle culturel du monastère des Ursulines. Alors que l'école perpétue sa mission d'enseignement en se concentrant depuis 1998 sur le niveau primaire et en accueillant les garçons depuis 2010, le pôle culturel du monastère des Ursulines conserve et met en valeur près de 4 siècles d'histoire et de pédagogie. Il a notamment pour mandat de gérer le musée et ses collections, de conserver les archives historiques et administratives de la communauté et de concevoir des projets qui mettent en valeur le riche legs culturel, artistique, éducatif et religieux des Ursulines. Et justement, la nouvelle exposition « Grandir chez les Ursulines » permet au grand public de plonger dans cette mémoire collective en découvrant objets, témoignages et documents liés à la vie religieuse et des élèves. Le pôle culturel du monastère des Ursulines organise conférences, concerts et visites guidées, en plus d'accueillir le public dans la chapelle des Ursulines qu'il est possible de visiter gratuitement durant les heures d'ouverture du musée. Donc, c'est à voir si vous allez...
Avez-vous l'adresse?
Non, mais c'est près de la chapelle. Moi, ça ne dit pas grand-chose, là, mais c'est dans le Vieux-Québec, mais je sais
okay,
pas.
OK, dans le Vieux-Québec.
Oui. C'est toujours un texte d'Alex Tremblay-Lamarche, directeur général du pôle culturel du monastère des Ursulines.
Oui, parce qu'on a deux endroits à aller, là.
Ouais,
au resto Rumba, à Val-des-Sources, et puis aussi au monastère des Ursulines. Oui, Mathieu?
C'est au 12 rue de Nakona.
Ah,
merci beaucoup. Mm-hmm. Vraiment un précieux héritage.
Oui,
là, super titre. Mm-hmm. Merci, Serge, de nous avoir parlé des Ursulines.
Ma soirée.
Bon enfant et la chanson Bouquet.
De retour avec Serge Bradet, Isabelle Falardeau et peut-être Daniel Lachance qui nous écoute de son studio dans son coin de pays. Alors, des brèves, l'été est fini, Serge, mais vous nous parlez de plage au Québec.
Ben oui, il y a trois semaines, ou je pense que c'est à votre retour, j'avais fait une brève sur le nombre de lacs qu'il y a au Québec.
Oui, on ne s'en souvient pas.
Ouais,
combien déjà?
Ben, oui, combien déjà? Hein? Combien?
Est-ce que vous l'avez en tête?
5 000 lacs.
Combien?
Au Québec, 5 000 lacs.
5 000.
Et au Canada, c'est énorme. Je pense que c'est 1 million au Canada. Là. C'est énorme.
Donc, ça nous donne un indice sur combien de plages?
Mais il n'y a pas 5 000 plages.
Non, mais c'est ça, on déduit.
Alors, les 500 000 lacs, ça représente 12 % de la superficie du territoire. Et bien évidemment, on se doute que les plages ne sont pas une denrée rare. Si on inclut les plages de galets, de roches et de sable, on compte en effet des milliers de plages disséminées un peu partout sur les littoraux de la province. Tourisme Québec répertorie cependant 350 plages publiques qui sont entretenues et parfois surveillées par les municipalités auxquelles elles appartiennent. Parmi ce lot, 125 participent au programme Environnement Plage du ministère de l'Environnement du Québec qui détermine la qualité bactériologique des eaux de baignade. C'est important de vérifier ça parce qu'il y a beaucoup de choses dans les eaux qui ne sont pas toujours bonnes pour la santé. Si votre plage favorite est toujours bondée, rien ne vous empêche donc d'en trouver une autre. Vous devriez la trouver assez facilement. Dans quel parc?
Plagequebec.com. Oui. Non, je ne sais pas.
Pourquoi? C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Pourquoi ne faut-il pas pencher la tête en textant?
Pencher la tête en textant? Ouais. Pencher par en avant?
Oui, oui, oui. Bien, quand on texte, on est comme ça.
Oui, finalement, on peut se faire mal au cou.
Ouais. Lorsqu'on penche la tête en avant à un angle d'environ 60 degrés pour texter...
On n'a pas le choix de
ben
pencher
non, c'est
la
ça.
Tête.
Ben, ouais, toujours comme ça, mais c'est pas évident. Non.
Oui, il faut lever le bras très haut.
Ouais.
Ouais. Mm-hmm. Alors, on fait subir un poids de 60 livres aux muscles de notre cou. C'est énorme, hein? En considérant que la plupart des personnes passent plus de 4 heures par jour sur leur téléphone, la situation pourrait rapidement devenir critique pour la colonne cervicale. Voilà pourquoi il vaut mieux prendre l'habitude d'élever son cellulaire à la hauteur des yeux, justement, ou de passer plus de temps loin de son portable, peut-être.
Sinon, on va devenir des quasimodos.
Ouais,
mais
oui,
c'est pas la même... Moi, je me suis toujours posé la question, c'est pas la même chose quand je lis un livre. Il faut aussi que je... Parce que moi, je lis des livres depuis toute ma vie.
Mm-hmm. Mais on ne se sent pas de la même façon quand on lit, je trouve.
C'est ça, hein.
Ben, on penche la tête, forcément. Sinon, il faut qu'on livre le livre, puis c'est plus lourd à lever, un livre. Mais bon...
Mais il me semble qu'on penche la tête moins... Mais il me semble qu'on penche la tête moins si on lit un livre.
Je serais intéressée à voir les études comparatives.
Oui, mm-hmm. C'est une bonne observation, Watson. Isabelle.
Merci.
Maintenant, pourquoi balance-t-on les bras en marchant?
Non, moi, je fais pas ça.
Le corps dépense...
Balancer les bras en marchant?
Non, moi, je fais ça.
Ben oui, on balance les bras, oui.
Ah
oui,
OK.
Le corps dépense moins d'énergie lorsqu'on se déplace en balançant les bras.
Les bas?
les bras. En effet, les garder immobiles pendant qu'on marche requerrait 12 % plus d'énergie que lorsqu'on les bouge.
Ah,
oui. Ouais, petite étude.
Mais... Il y en a qui marchent avec les mains dans le dos aussi.
Oui, et tout.
Ouais. Comme des sages.
Oui. Dans quel parc devrions-nous observer les étoiles au Canada?
Oui, dans le coin de Mégantic. Oui,
c'est ça que je voulais dire.
Oui.
C'est près du mont Mégantic de l'observatoire.
Ben, figurez-vous que ce n'est pas les options qui manquent. Parmi les meilleurs endroits pour scruter l'espace, il y a notamment les parcs nationaux de Jasper et de Banff en Alberta, le Parc national des Prairies en Saskatchewan, la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, justement, au Québec.
Ah, bon.
Le parc
un
des...
point.
Oui. Le parc des rochers Hopewell au Nouveau-Brunswick et le parc provincial Charleston Lake en Ontario. N'oubliez pas votre télescope si vous y allez.
Oui, est-ce que vous en avez un télescope?
Non. J'en ai déjà acheté un, mais mon Dieu... J'arrivais pas à le régler, je l'ai retourné au magasin.
Vous n'avez pas peut-être été assez patient, Serge.
Peut-être, oui.
Merci beaucoup à vous deux. Mm-hmm. À la semaine prochaine.
Oui.
Bonne semaine, bye-bye.
On joint avec plaisir Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
D'abord, un sentiment d'urgence palpable pour les médias de langue minoritaire.
Oui, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'actions au cours des deux dernières semaines concernant les médias de langue officielle en situation minoritaire. Ça, ça inclut les journaux et les radios francophones du Canada et anglophones au Québec. Ces médias-là sont disproportionnellement affectés par toutes les difficultés qui touchent les médias, que ce soit le financement ou des problèmes de visibilité. Un consortium qui représente les quatre associations de ces médias-là a produit un livre blanc pour décrire la situation, mais aussi pour trouver des solutions. Puis on a aussi organisé un forum le 11 et 12 septembre pour revenir sur le livre blanc et explorer des pistes de solutions. Ils se sont posés des questions sur la définition de leur rôle et comment on peut adapter dans un monde médiatique en changement avec le peu de ressources qu'ils ont. Du côté des solutions, il y a quatre piliers importants qu'on dit dans le livre blanc. Premièrement, il y a les médias eux-mêmes qui doivent se moderniser, poursuivre les tendances aussi. Mais ils vont avoir besoin d'aide pour trouver le moyen d'y arriver parce qu'ils ne peuvent pas y aller sans eux. Parce que dans leur marché restreint, c'est impossible de faire assez d'argent juste en ligne pour soutenir leurs activités. Donc, on va avoir besoin de l'aide du gouvernement, mais aussi un engagement des communautés qui les servent. Soit en utilisant ces médias-là ou en les aidant financièrement. Puis finalement, il y a les quatre associations et le consortium qui peuvent aussi être mis à profit dans la production de solutions. Ça sera donc à suivre, mais si ça vous intéresse, donc on a deux textes sur Franco-Presse. On a aussi une lettre à l'éditeur qui est envoyée par l'Alliance des radios communautaires du Canada. Et le média On a le choix de Cornwall, dont je vous parle de temps en temps, a aussi produit un texte et une vidéo.
Et on poursuit maintenant avec une nouvelle tirée du courrier de la Nouvelle-Écosse.
Oui, on parle de numériser les accents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'application français dans nos régions. C'est un projet qui est né en France et qui sert à répertorier différents accents et expressions de la francophonie mondiale. Ça a commencé en France, mais je les suis sur Facebook, puis ils montrent toujours des cartes de dans quelle région tel mot et quel mot est utilisé et qui signifie la même chose. Ça a fait un peu de vague de ce côté-ci de l'Atlantique il y a quelques années quand ils ont commencé à répertorier les expressions au Québec, entre autres. Là, ce qui se passe, c'est que on regarde du côté de l'Atlantique, de la région Atlantique, il y a le Musée acadien de Pomnico en Nouvelle-Écosse qui a organisé une séance pour aider les personnes plus âgées de cette région-là à utiliser l'application pour enregistrer leur façon de prononcer certains mots, enregistrer leur accent. Et permettent aux chercheurs de cette application-là d'avoir ces données-là. Pourquoi on regarde du côté de cette région-là, c'est que c'est un accent qui vient d'une région très précise de la France, là, du nord, sur le bord de la Manche. Puis apparemment, il y a eu très peu d'influence extérieure, donc il ressemble beaucoup à la façon dont on parlait au 17e siècle. Donc, le musée a organisé cette séance-là pour donner un coup de main aux personnes âgées, là, pour qui ça peut être plus difficile d'utiliser une tablette ou une application pour enregistrer leurs accents. Puis, on espère pouvoir répéter l'expérience dans d'autres régions de la Nouvelle-Écosse où il y a des accents distincts, puis où c'est plus difficile d'obtenir la participation de tout le monde.
Bien sûr. Dans l'Express, il est question de télétravail. Le centre-ville de Toronto ne retrouve toujours pas son dynamisme d'avant la pandémie.
C'est l'Express qui nous présente les données d'Environics Analytics à propos de l'achalandage dans le centre-ville de Toronto. Il y aurait 33 % moins de personnes qui travaillent au centre-ville de Toronto si on compare entre le premier trimestre de 2020, donc juste avant la pandémie, et ce printemps. En chiffres, ça veut dire qu'en 2020, il y avait 4,45 millions de personnes qui travaillaient autour du centre-ville de Toronto. En ce moment, ça serait seulement 2,96 millions. Il y a quand même eu une remontée depuis la fin des restrictions pour nous travailler, mais on observe en ce moment une stabilisation. Là, le dernier chiffre qu'ils avaient dans leur tableau en fait une petite diminution de 1 %. Les analystes de la firme croient que le nombre de personnes qui fréquentent le centre-ville ne va pas augmenter beaucoup plus que ça. C'est une autre donnée intéressante aussi qui leur donne du poids, c'est qu'il y aurait aussi une tendance à la diminution de 43 % du nombre de piétons au centre-ville de Toronto. Cette diminution-là avait évidemment un impact sur les commerces de proximité et les restaurants. Puis même si de plus en plus d'employeurs demandent le retour au bureau, ça inclut les banques et le gouvernement de l'Ontario. Il y a la professeure de l'Université de Toronto, Karen Chappell, qui, elle, ne croit pas que le nombre de travailleurs moyens va continuer d'augmenter au centre-ville, que ça va encore rester relativement stable. Elle évoque certaines compagnies qui ont adopté vraiment le travail hybride, le fait que c'est très avantageux pour certains types de travailleurs, puis que ça reste un avantage pour d'autres. Donc, ça se peut que ça n'augmente pas beaucoup plus.
Par ailleurs, Julien, les municipalités du nord de l'Ontario demandent de l'aide pour protéger le secteur forestier.
L'Association des municipalités du nord de l'Ontario et l'Association municipale du nord-ouest de l'Ontario demandent une aide au gouvernement fédéral pour sauvegarder le secteur de la foresterie dans cette région-là. C'est que le 10 septembre, l'usine de pâte et papier de Kapuskasing a reçu une extension de prêt du gouvernement provincial pour éviter sa fermeture. Puis on dit que si elle ne reçoit pas plus d'aide, elle pourrait fermer d'ici 2 semaines. Les deux associations rappellent que l'usine reçoit des copeaux de bois et de l'écorce des scieries de la région, entre autres de Hearst, de Cochrane et de Chapleau, qui sont des villes du nord de l'Ontario. Puis que si ces scieries-là ne peuvent plus écouler ces résidus-là, qui leur donnent un certain revenu, donc on perd une source de revenus, ça baisse la rentabilité, puis ça pourrait carrément entraîner la fermeture de ces scieries-là. Les deux associations soutiennent que si ces scieries ferment, le gouvernement pourrait avoir de la difficulté à remplir sa promesse de construire plus de logements plus rapidement avec du bois canadien. Puis la région Kapuskasing pourrait perdre, ou au moins ça pourrait affecter, la fermeture de l'usine de pâte et papier pourrait affecter jusqu'à 2500 emplois dans la municipalité. On n'a plus beaucoup de nouvelles, mais initialement, le gouvernement fédéral semblait ouvert à donner un coup de main à l'usine.
Dans la source, ces planteurs qui parlent la langue de Molière en reboisant la Colombie-Britannique, c'est presque une phrase poétique.
Oui, presque, pour la langue de Molière. La source de Vancouver nous parle de ce texte intéressant-là de planteurs d'arbres francophones. Il y a plusieurs Québécois là-dedans, mais pas seulement, qui travaillent en Colombie-Britannique, puis qui racontent comment plusieurs francophones se retrouvent et forment des petits groupes, surtout quand ils sont isolés dans la forêt pour faire leur travail. Puis ils peuvent ainsi parler leur langue. Parfois, sont aidés par un chef d'équipe francophone aussi. Fait que ces petits groupes-là réussissent à se retrouver et à travailler en français, finalement, dans une mer anglophone et dans une mer de forêt aussi. Mais on parle aussi un peu dans le texte qu'au-delà de la langue, ben, ça leur permet, ben, ils apprécient la liberté de cet emploi-là et ce qu'ils peuvent apprendre de la nature et des enjeux écologiques, surtout liés au domaine de la foresterie.
Une mère de forêt, vous aussi, vous êtes poète. Et en terminant, Julien, une journée en vert et blanc. En vert et en blanc.
Oui, parce que je vous rappelle tout simplement que demain, c'est la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Elle est un peu plus spéciale cette année parce que le drapeau franco-ontarien, cet emblème très apprécié de ces gens-là, va avoir 50 ans. Donc, il va y avoir plusieurs célébrations partout en province, là, mais la plus importante, évidemment, ça va être où je suis à Sudbury, parce que le drapeau est né et a été levé la première fois à l'Université de Sudbury en 1975.
Alors, on diffusera certainement la chanson « Mon beau drapeau », où on entend les voix de Véronique Duquerre et de Robert Paquette. Je vous dis pas quand, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Merci beaucoup, Julien.
Merci, bonne journée.
À l'occasion de la Journée québécoise du parrainage civique, célébrée aujourd'hui, 25 septembre. On est bien le 25 septembre, non? Hein? On est le 24?
Oui, 24.
OK. Alors, c'est demain. Ça va se passer demain. Parrainage civique Montréal dévoile une vidéo mettant en lumière l'impact de ses actions auprès de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que celui des bénévoles qui les accompagnent. Vous verrez que la vidéo met en lumière 4 jumelages à travers des moments simples et sincères. parrainagemontréal.org/portrait pour avoir plus de détails. Et comme c'est demain que ça se passe, j'en reparlerai avec grand plaisir. Reste avec nous une nouveauté de Garou et tout de suite après la chronique cinéma en compagnie de Louise Véronique Sicotte qui a vu 3 films pour nous, pour vous. Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Garou, un meilleur lendemain.
Oui, c'est le nouvel extrait de son nouvel album. C'est en fait la chanson-titre de son album, Un meilleur lendemain. Là-dessus, je me racle la gorge avant de saluer officiellement Louise Véronique Sicotte, notre chroniqueuse cinéma. Bonjour Louise Véronique.
Bonjour Hélène.
Ça fait longtemps, hein?
Mais oui, depuis le mois de juin.
Passez un bel été.
Très bel été. Magnifique.
Alors, je vous souhaite un bel automne aussi. Vous allez certainement nous mentionner quelques films qui vont sortir cet automne.
Oui. Mm-hmm,
et vous avez vu 3 films pour l'auditoire de Canal M, à commencer par Négligence de Leonardo Fuica. On a la bande-annonce.
Veuillez vous lever. All rise. The Honorable Judge Véronique Guilbeault.
Look, Joey. If you have any questions, or if you want to say anything, just let me know, okay? This is a safe space.
Jesus Christ! Can you make any more noise? trying to sleep here.
You've been texting me.
Arutin puis Joy.
Hey, what's up, Joe?
Excuse-moi, là, il est pas de même d'habitude. À cause de son esti de paille.
He still was trash.
Joy? Hey. Hey, non, tu m'écoutes-tu, bâtard? Go, m'entends le boss.
I think this kid might be deaf, eh? Maybe a retard.
This kid, là, comme tu dis, c'est ton ghost, je te le rappelle.
Joey definitely gets his retard trace from you.
Je veux que vous compreniez une affaire. J'étais prisonnière de cet homme-là.
What we need to take into account is what caused this tragic incident.
State your full name.
Jason Vivo.
Do you swear to tell the truth and nothing but the truth?
Yes.
D'après moi, son chum garde le stage avec lui. Tu veux vendre notre territoire sans notre approbation? Tax!
Tu sais quoi le pire dans ce temps-là? J'ai jamais aimé ça me battre.
I never meant to hit her. If I could take it all back, I would.
Une femme battue sous l'emprise d'un narcissique contrôlant dangereux avec un gun. Damn!
Intense, je l'ai pas vu, mais ça a pas l'air d'une comédie.
Je dirais intense et lourd.
Oui, oui.
Oui, en effet. C'est un drame judiciaire. Hein? Donc, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, c'est le procès d'un événement tragique qui s'est produit dans lequel le petit garçon Joey est impliqué. Joey, c'est un petit garçon de 6 ans. Et donc, dans ce film, on voit toutes les conséquences de la maltraitance, de la négligence parentale. Donc, on l'a entendu aussi, il y a de l'anglais et du français parce que son père est anglophone, sa mère est francophone. Donc, le film alterne entre le français et l'anglais tout au long du film, presque.
Ça se passe où?
Ça se passe à Montréal.
OK.
Oui, oui. Et c'est inspiré d'un fait réel. Et je ne me souviens plus lequel, mais bon. Donc, le réalisateur, Leonardo Fuica, c'est son deuxième long métrage, d'ailleurs. Il est principalement acteur, je dois dire.
Est-ce qu'il joue dans son film?
Non, il le réalise, oui. Et donc, il a voulu, en fait, sensibiliser le public aux conséquences de la violence familiale. Je pense que l'objectif est louable, mais le résultat est, à mon avis, décevant.
Ah oui, pourquoi?
Pourquoi? Parce que les personnages sont vraiment unidimensionnels. C'est des stéréotypes, c'est vraiment, les personnages sont dessinés à gros traits, il n'y a pas beaucoup de nuances. Le père est contrôlant, il est abusif, la mère est sous son emprise. On parle aussi de gangs de rue, de commerce de la drogue, ça se passe dans les bars. Alors c'est très lourd et c'est, bon, plus ou moins bien joué, je dirais aussi. Le petit garçon... il parle très peu dans le film. Enfin, il ne parle pas, mais il est souvent présent. Et il se réfugie dans les jeux vidéo. Alors, en fait, le film aussi, dans la réalisation du film, on a voulu protéger les enfants qui ont joué dans ce film aussi. Alors, toutes les précautions ont été mises parce que c'est quand même un sujet très
grave,
lourd, très grave, ouais. Où il y a aussi question d'armes à feu.
Oui, même que le petit garçon a une arme à feu à un moment donné. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce.
Ce qu'on voit dans la bande-annonce, et c'est pour ça dans lequel il est impliqué aussi dans ce procès. Mon Dieu, j'ai trouvé ça extrêmement lourd comme film. Il n'y a pas de nuance non plus dans la psychologie des personnages. Il y a certaines séquences aussi qui sont filmées en saccadé, en accéléré, comme pour montrer l'influence des jeux vidéo. Il y a aussi une musique un peu, je dirais, mélodramatique là,
qui ajoute à la
lourdeur aussi.
Bon, ça ne vous a pas convaincu.
Ça ne m'a pas convaincu, malheureusement. Mais je dirais que le sujet est louable. Et d'ailleurs, à la toute fin, il y a des petites bulles de témoignages d'enfants et d'adultes qui ont vécu de la négligence.
Mm-hmm. Est-ce que c'est un film que vous pourriez dire qu'il fait œuvre utile?
Ben, il fait œuvre utile, mais c'est un sujet d'actualité, hélas. Mais le
c'est pas traité avec délicatesse ou nuance.
Avec nuance, en effet. En effet. Mais comme je disais, l'objectif est louable.
Alors, le film prend l'affiche bientôt. Là,
vendredi.
Parfait.
Dans plusieurs cinémas.
Celui de Félix Dufour-Lapeyrière aussi, qui n'est pas encore à l'affiche, qui prend l'affiche vendredi.
Vendredi, en effet.
Et qui s'intitule « La mort n'existe pas ». Quelle bonne nouvelle.
que les domestiques, ils seront pas plus que 11 ou 12.
Une fois lancé, on regarde pas en arrière.
Peut-être qu'il faut toujours être au service de la vie, la protéger. On peut être l'étincelle qui met le feu au reste. Abandonne pas ce qui te rend libre et dangereuse. Puis fais attention où tu mets les pieds. On pourra pas dire qu'on n'a rien essayé.
Oui, on sent le drame ici également, dans la bande-annonce,
oui.
En tout cas.
Oui.
C'est le film d'animation de Félix Dufour-Lapeyrière, La mort n'existe pas.
Oui, coproduit avec son frère, Nicolas. Et il a donc écrit, réalisé et monté. C'est un travail, le fruit de 10 années de travail,
ah, oui.
De production.
Est-ce que ça paraît?
Ça paraît, oui, parce que c'est un film d'animation. Hein? Et on pourrait dire, comme il le dit lui-même, Félix, c'est un film foncièrement montréalais. C'est-à-dire que c'est le style d'animation québécois, tributaire de l'ONF. Ce n'est pas de style américain ou japonais. C'est un film magnifique. Là, on n'a entendu que la bande-annonce, on ne voit pas les images, bien sûr.
Pourrait dire Montréal, québécois, canadien, même l'ONF.
Oui, oui. Mais même ce film-là a été fait avec une 30aine d'animateurs et d'animatrices.
Ah oui.
D'équipes d'animation.
Beaucoup d'abeilles.
Oui, beaucoup d'abeilles, parce que c'est, le film est fait à la main, dessiné à la main. C'est ça.
Ah.
Alors, c'est ça la beauté de ces images-là. On est capté dès le départ. On a entendu aussi la musique. La musique est très envoûtante, très inquiétante aussi. Alors, qu'est-ce
ça
que
raconte
ça,
quoi,
ça raconte
ouais.
quoi? Allons-y dans le...
Ça raconte que la mort n'existe pas.
Ben, oui, en effet, c'est ce qu'on peut voir dans le film. Mais c'est en fait un film, encore une fois, le sujet est très d'actualité parce qu'on parle d'un groupe de jeunes militants extrémistes qui vont commettre un attentat envers une famille riche pour dénoncer le capitalisme. Mais
Déjà vu,
mais une des jeunes militantes, Hélène, va se désister à la dernière minute et elle va fuir. Donc, on suit ce personnage-là qui va être hanté par la mort de sa meilleure amie qui, elle, va être tuée dans l'attentat, Manon. Et donc, c'est toute une réflexion aussi sur sa culpabilité, son regret de ne pas avoir osé jusqu'au bout de ce geste-là. Alors c'est,
mais pourquoi elle regrette?
Elle regrette parce que, en fait, Manon devient aussi revient en fantôme, devient un peu sa conscience et lui dit « t'aurais dû aller jusqu'au bout de... » comme moi je l'ai fait.
Mais Manon est morte.
Oui, mais en fait, comme on dit, la mort n'existe pas, donc elle revient la hanter dans son esprit. Et plus le film avance, plus il est symbolique et plus fantastique dans les images, dans le traitement.
Il y a de la narration.
De la narration, c'est plus des dialogues, en fait.
Oui.
Alors, on pourrait parler aussi des voix qui sont les personnages. La voix de Zeynep Blanchet, Karel Tremblay et de Mathis Savard-Verhoeven, qui incarnent les principaux personnages.
Qui les incarnent bien.
Qui les incarnent bien. Ben, en fait, c'est leur voix, là, quand même, oui.
Elles s'incarnent bien vocalement.
Vocalement, en effet. Mais je pense que c'est l'aspect visuel qui est absolument magnifique. Certaines scènes, certains segments sont des petites œuvres d'art, je dirais, aussi. Félix
Dufour-Lapeyrière,
oui, a mis énormément de détails sur les couleurs, d'insistance sur les couleurs. Alors, le film s'ouvre sur des couleurs éblouissantes, sur les images de loups, une musique inquiétante.
Il y a du rouge, il y a du noir.
Il y a du rouge, du noir, beaucoup de rouge aussi. Et même les scènes de violence sont belles en soi, d'une certaine façon, parce qu'elles sont stylisées.
Mm-hmm.
Hein? C'est un film qui traite de, comme je vous disais, d'un sujet d'actualité, l'extrémisme, les gestes que les jeunes posent, aussi un peu leur idéalisme, un peu leur naïveté, mais aussi les conséquences de ces gestes-là.
Est-ce que la forme prend trop de place parce que ça m'apparaît éblouissant? mais l'histoire n'est pas noyée.
Non,
là,
l'histoire n'est pas noyée. Non, mais on tombe dans le vers le milieu, vers le fantastique.
Ah.
C'est-à-dire, il y a vraiment des images très, très poétiques aussi, comme des animaux, des oiseaux qui meurent, qui se régénèrent et qui reprennent vie. Alors, voyez, donc,
avez-vous aimé?
Moi, j'ai adoré.
Oui.
J'ai trouvé ça très beau parce que aussi, d'ailleurs, ce film a été montré à Cannes, hein, dans la section de la quinzaine des cinéastes. C'est quand même pas rien.
Je comprends.
Et le réalisateur nous avait donné auparavant d'autres films d'animation magnifiques. Hein, je pense à Archipel, dont j'avais parlé ici au micro. Et ce qu'il veut, c'est décloisonner le cinéma d'animation. Montrer qu'on peut montrer, on peut faire des films qui sont hors... hors stéréotypes, qui ont un contenu aussi, qui ont une charge émotive.
On espère que les gens soient au rendez-vous.
J'espère, parce que 10 ans de labeur pour faire ce film, il faut que les gens puissent le voir et l'apprécier.
Il y a du travail derrière ça.
Il y a du travail, toute une grosse équipe d'animation.
Donc, l'affiche à partir de vendredi, la mort n'existe pas.
Au cinéma Beaubien.
Entre autres.
Entre autres.
Et on termine avec « Ils sont sacrés » de Kim Obom-Samwin. On n'a pas la bande-annonce puisque c'était sous-titré en français,
c'est
mais
ça.
On entendait les dialogues en anglais.
Oui. Ce film-là, c'est un documentaire, un autre de Kim Obom-Samwin. Il a remporté le prix du public Jean-Marc Vallée au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et avec cette année, avec raison, parce que c'est un film... qui porte sur un autre sujet qui revient dans l'actualité, d'ailleurs, tout récemment.
Bien oui,
là,
ben
oui, l'autisme, en effet. Ils sont sacrés, ce sont ces enfants, ces adultes qui sont...
Qui vivent avec l'autisme.
Qui vivent l'autisme.
Mais qui sont autistes,
qui sont autistes, mais qui sont considérés comme sacrés dans la tradition, la culture, la philosophie autochtone. Alors, la réalisatrice a suivi un père et son fils. Le père est Grant Bruno, qui est un doctorant en sciences médicales à l'Université de l'Alberta.
On n'est pas dans la fiction, là. C'est un doctorat.
Oh, un documentaire. Oui, okay. Oui. Et il est père de 4 enfants. 2 sont atteints du spectre de l'autisme. Ouais. Donc, on va le suivre avec son petit garçon, Anders, le plus jeune. C'est un garçon lumineux. Son visage est absolument magnifique. Et on va le suivre dans son évolution en tant qu'enfant avec cette particularité qu'il a. Mais pour la communauté autochtone, c'est considéré comme une richesse et non pas comme un handicap, parce qu'on dit que les personnes autistes sont reliées au monde des esprits. Ils sont connectés avec eux. Alors,
avez-vous embarqué?
J'ai embarqué, oui, parce que c'est un film qui est très simplement réalisé. On va suivre l'enfant, par exemple, dans une tente de sudation. C'est un rituel autochtone, sacré, et il va recevoir son nom sacré. On va le suivre aussi à la chasse, à l'expérience de son initiation à la chasse avec son père et son oncle, dans un powwow. Powwow, les grandes fêtes avec musique et tout. Et donc, il y a même une tente installée spécialement pour les personnes autistes, pour qu'ils puissent se calmer, disons. Ça montre aussi non seulement la philosophie, mais aussi le manque de ressources pour ces personnes-là, pour ces familles-là. Et c'est ce que voulait montrer monsieur Grant, monsieur Bruno, en fait, parce que...
Le père de 2 enfants autistes.
Le père, c'est ça, parce que, oui, il y a un regroupement de familles pour se soutenir, mais il manque cruellement de soins, d'aide particulière aussi, de soutien.
Ils sont sacrés, un beau titre.
Un beau titre et un beau film aussi. Un beau film qui nous montre la richesse de la culture autochtone, mais aussi envers ces enfants-là.
De Kim Obom-Samwin.
Oui, qui sont lumineux. Elle avait réalisé « Ils sont humains » avec Joséphine Bacon il y a quelques années. Dont j'avais parlé également.
Oui, je me souviens. Très beau film, lumineux également.
Oui, oui.
Alors, c'est à voir.
C'était l'affiche au cinéma Beaubien à partir de du mois d'octobre, début octobre.
OK, un peu plus tard.
Oui.
Donc, pas vendredi, ce vendredi.
Bientôt.
Et vous terminez avec quelques suggestions, quelques films qui vont sortir cet automne. D'abord, on voulait revenir brièvement parce que vous l'avez vu et ça a été un grand coup de cœur,
«
1000 secrets, 1000 dangers ».
Oui, de Philippe Falardeau, que j'ai vu récemment. Et quel film! Moi, je n'ai pas lu le roman.
D'Alain Farah.
De 500 pages, là.
Oui, mais ça se lit très, très bien. Je l'ai
lu
et j'ai hâte de voir le film parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le roman. Et vous avez beaucoup aimé le film?
Beaucoup. tout, c'est un film montréalais, mais je dirais aussi universel dans son histoire. Un mariage qui ne se passe pas comme, comme d'habitude, avec une pléthore de personnages extrêmement attachants.
On rit, on pleure.
Oh, j'ai beaucoup ri d'ailleurs, mais aussi des situations très... très, très, très touchante,
oui,
et extrêmement bien réalisée.
Par l'anxiété, notamment.
Oui, une anxiété, absolument. Mais c'est très touchant et les personnages sont très attachants, vraiment attachants. Alors, c'est à voir parce que c'est un film... d'ailleurs, l'écrivain a collaboré au scénario.
Oui, Alain, oui, Farah était là du début à la fin.
Du début à la fin, et c'est son histoire.
Tout à fait. Oui. Mille secrets, mille dangers, oui, c'est à voir. Le film est déjà à l'affiche,
oui,
depuis vendredi dernier.
Allez-y, allez-y.
Et peut-être un ou titre ou deux,
oui,
avant
des
de
films,
se laisser.
Des films québécois. Parce que
comme vous voulez.
Oui, toujours québécois pour moi,
oui,
plus souvent. Ma mère est une sorcière. Ma belle-mère est une sorcière, de Joël Desjardins-Paquette. C'est un troisième conte pour tous, nouvelle génération. Donc, avec Marilyn
Castango. Ah oui,
le
projet d'India Desjardins?
Pas sûr,
non,
si c'est
pas sûr.
Ça. Pas sûr si, okay, c'est celui-là. Mais c'est donc une belle-mère, Marilyn Castango, qui serait une sorcière, d'après la petite Margot, interprété par Juliette Aubé. Donc, un conte pour tous. Et il y a aussi le film de Léa Paul qui va sortir bientôt également.
Ah, j'ai hâte de voir ça aussi.
On sera heureux. Première collaboration avec Michel-Marc Bouchard, aussi le dramaturge, qui a écrit un scénario original pour Léa Paul. Donc, l'histoire d'immigration, des difficultés d'immigration, mm-hmm, entre deux hommes qui s'aiment. Alors, ça aussi, ça promet beaucoup.
Alors, le film a été scénarisé par India Desjardins. Ma mère est une sorcière, mais réalisé par Joël Desjardins-Paquette. Et moi, je vous suggère, je ne sais pas si vous l'avez vu, La venue de l'avenir de Cédric Lapiche, un de mes grands, grands coups de cœur de la rentrée.
C'est à voir.
Louise Véronique Sicotte, merci beaucoup. On se retrouve en octobre.
Toujours un plaisir.
Moi j'ai 8 ans, rue Market. À la radio de mes parents, j'entends chanter le fou, chantant l'âme des poètes. Le gros Raymond m'appelle dehors, viens jouer dans le cour, j'ai des pétards. La ruelle s'étire à l'horizon. On va raser les murs, on va sauter les clôtures jusqu'au Japon. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. L'odeur d'encens dans les églises, comme au trottoir des années grises, mais pas perdue. Avec au cœur la graffinure de la plus belle, de la plus pure, m'a fait des rues. Le gros Raymond qui lâche l'école, ma ligne de vie qui fait la folle frontière fragile entre l'homme et l'amour. J'ai mal à mes 16 ans, j'ai tous les âges en même temps, et je t'attends. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. Pas la nostalgie, c'est une maîtresse inassouvie aux yeux trop bleus. Je t'emmène en ville à pied, je te fais présent de mon passé si t'en veux. Du haut de la croix du Mont-Royal, je te confie mon idéal et tous mes romans fleuves à venir. Enfants, joueurs de tour, et mes automnes et mes amours à finir. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir.
La lune d'automne, Michel Rivard, et c'est le 6 octobre qu'on pourra admirer la prochaine pleine lune. Erratum, ma belle-mère est une sorcière, film québécois réalisé par Joël Desjardins-Paquette et scénarisé par Dominique James et Christine Doyon. Et le film sera à l'affiche le 10 octobre, tandis qu'India Desjardins est associée au projet Hanté, film réalisé par Raphaël Ouellette. C'est India qui a scénarisé ce film dont le tournage a commencé le 21 septembre dernier. Le beau piano, Amélie Poulain. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Il me semble que ça a passé vite ce matin. Merci à toute l'équipe constituée d'Hélène Denis et de Mathieu Tessier. À demain!